On accueille maintenant Gisèle au 3921. Bonsoir Gisèle.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je suis tellement contente de vous entendre.
Ah, c'est gentil.
J'écoute Europe 1, je crois, depuis la nuit des temps.
Ah oui ?
J'étais en train de réfléchir. J'écoutais même Europe 1 quand je faisais mes vols de nuit. Parce que j'étais hôtesse de l'air.
Ah oui ?
Et à l'époque, je ne sais pas, peut-être que ça a changé maintenant, mais les équipages en vol de nuit dorment à tour de rôle,
oui.
Sauf la chef de cabine, qui, elle, doit veiller que celui qui est de quart ne s'est pas endormi, qu'il fait bien son quart. Et la chef de cabine va tous les quarts d'heure dans le poste de pilotage,
oui.
Voir aussi si l'équipage qui fait son quart ne s'est pas endormi.
D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui. Et donc, j'écoutais Europe 1, puisque moi, je ne pouvais pas dormir.
D'accord. Vous n'arriviez pas à dormir ?
Non, mais je n'avais pas le droit de dormir.
Ah oui, d'accord.
Et la chef de cabine ne dort pas pendant tout le vol de nuit.
D'accord. Et vous avez fait ça longtemps, Gisèle ?
Quelques années, oui.
Oui.
Je me suis arrêtée en 81.
Oui.
Parce que j'étais mariée à un commandant de bord.
Oui.
Et nous partions en secteur dans le Pacifique, envoyé par la compagnie.
D'accord. Et vous avez. Donc vous étiez sur des longs courriers, hein, très longs courriers. Et uniquement le Pacifique ou vous avez fait un peu le tour du monde à cette époque ?
J'ai presque fait le tour du monde.
D'accord.
Sauf l'Amérique du Sud.
Oui.
Où ma compagnie n'allait pas. J'ai fait plusieurs compagnies.
Oui.
Mais la dernière, je n'ai pas du tout fait l'Amérique du Sud. Mais sinon, j'ai tout fait, quoi.
D'accord.
Beaucoup l'Extrême-Orient.
Oui.
Puisque notre compagnie était spécialisé sur l'Extrême-Orient.
D'accord. Et quel souvenir vous gardez de ces années-là ? Quel pays vous fascinait le plus, vous a fasciné le plus à cette époque ?
C'est surtout le métier.
Parce le métier.
Que j'ai voyagé depuis ma naissance.
Oui.
Je crois que nous étions au Vietnam, mes grands-parents était implanté au Vietnam. Mon grand-père maternel était propriétaire de plusieurs comptoirs Citroën. Et même, je fais une petite parenthèse, je vais vous dire une anecdote sur Citroën, André Citroën.
Oui.
Donc, mon grand-père avait des comptoirs au Vietnam, au Tonkin et au Cambodge. Très très connu là-bas. Et André Citroën, quand il a fait la croisière jaune, même si vous êtes jeune, vous devez quand même avoir entendu parler la croisière jaune d'André Citroën.
Non. Qu'est-ce que c'est ?
C'est tous les tacos. Citroën,
oui.
Sont partis de Paris jusqu'à Pékin.
Mm-hmm.
Donc, ils ont traversé tout l'Extrême-Orient et avec les tacos Citroën. Donc, c'était la croisière jaune. Regardez, ça doit bien exister sur Internet.
Ah, oui, sûr,
vous allez
sûr.
Trouver quelque oui. chose. Et en arrivant en Chine, il est descendu spécialement pour ma grand-mère maternelle à Saigon, et il lui a offert un bijou unique qui représente le taco Citroën en bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire oui. Saphir, diamant et rubis.
Super.
Il n'y a qu'un seul exemplaire, et c'est ma sœur aînée qui en a hérité. Parce que ma grand-mère est morte, ma mère est morte, donc ça aboutit chez ma sœur aînée. Donc j'ai toujours voyagé, et c'est à partir de là, parce qu'à l'époque, les avions, j'ai demandé à mes collègues, parce que je ne me souvenais plus de quel avion c'était. Donc, il paraît que c'était des C6 qui faisaient le Vietnam, la France. Et à l'époque, il y avait des couchettes à bord.
D'accord.
Et comme nous étions famille nombreuse, ma mère voyageait avec les nurses, on avait chacune nos nurses, et on avait toute une cabine avec les rideaux qui fermaient et avec couchette à bord. Donc c'est de là où ma vocation aérienne, parce qu'après j'ai été pilote aussi,
oui.
Donc ça a démarré à partir de là.
D'accord.
Mais pourquoi moi je vous ai contacté ? Parce que vous posiez la question avec un auditeur, comment on pouvait retrouver ses ascendants ?
Oui.
Alors je me disais, bah enfin Olivier, c'est tout simple, par la généalogie.
Oui, oui, non mais je sais, par la généalogie, mais en fait, lorsque je lui posais la question, j'entendais par là à qui s'adresser. Je sais que c'est la généalogie, mais je ne sais pas s'il y a des entreprises qui font ça. Je sais qu'il y a des gens qui se spécialisent dans ça, parce que j'ai vu deux, trois reportages sur ces personnes qui, pour les héritages, hein, quand il n'y a plus de descendants, vont chercher des descendants lointains. Et donc, je sais que ces entreprises sont spécialisées dans un type de généalogie. Mais je ne savais pas si on pouvait s'adresser à ce même type d'entreprise pour qu'ils fassent les recherches à notre place. Donc, je ne savais pas...
Ah non, non. Alors, excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, je vous en prie.
Ces entreprises, eux, sont spécialisées. Justement, il y en a, cette entreprise m'a contactée récemment parce que je suis héritière à la 5e génération,
oui,
d'une personne décédée sans enfant. Donc, cette société, elle est unique. Hein.
D'accord.
Je ne dirai pas son nom, elle est unique. Et ils ne sont spécialisés que pour rechercher les héritiers par la généalogie. Mais cette société ne va pas du tout vous aider.
D'accord.
Donc, il y a des pubs qui sont faites pour des sites Internet.
Oui.
Et pour démarrer, il suffit d'avoir un acte de naissance. Parce que sur l'acte de naissance, il y a toujours marqué que vous êtes né, regardez votre propre acte de naissance, vous êtes né tel jour, telle heure, telle date à telle heure, de père machin, né le A, de mère un tel, né le A. Et à partir de là, donc, vous commencez, vous pouvez démarrer.
D'accord.
C'est avec l'acte de naissance, toujours, parce que vous avez toujours le père et la mère. Et après, sur ces sites où on peut s'y mettre gratuitement, c'est gratuit, vous tapez le nom que vous avez eu sur l'acte de naissance et c'est une vraie toile d'araignée.
D'accord.
Vous trouvez tout ce que vous voulez, parce que moi, j'ai réussi, ça fait quand même 10 ans, c'est devenu une passion, que j'ai fait ma généalogie, et maintenant, ça y est, j'ai dépassé les 3000 personnes.
D'accord.
Et je suis remontée jusqu'à 1651.
Ah oui, carrément, aussi loin.
Ah oui, oui. Et ce qui fait vibrer, c'est que vous trouvez les actes de naissance qui remontent justement à 1651. Alors, ils sont un peu délavés par toutes les intempéries que les mairies ont essuyées. Et c'est écrit en vieux français, les F pour des V. Enfin, il faut apprendre le vieux français après.
D'accord, d'accord.
Mais ça fait vibrer quand vous voyez que vous vous imaginez la personne en mairie qui a écrit cet acte avec leurs belles écritures en plein et en délié, et que ce papier, il remonte à 1651. Moi, ça me... À chaque fois, ça me fait vibrer. Ça me touche beaucoup.
Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est quelque chose qui est assez... Qui est très surprenant. Hein.
Et on arrive à se contacter parce que fatalement, dans votre généalogie, il y a quelqu'un qui est dans une autre généalogie, donc on se contacte,
oui.
et on apprend des tas de choses. Moi, j'ai découvert un cousin qui était grand résistant.
Oui.
Après, je suis allée sur Internet, j'y ai vu sa biographie. J'ai appris plein de choses sur ma famille, y compris les maladies.
D'accord.
C'est incroyable ce que l'on peut apprendre par la généalogie. Donc, quand j'ai entendu que vous posiez des questions, alors j'étais là, mais j'ai dit, mais non, je ne vais pas l'appeler juste pour lui dire, mais Olivier,
mais si,
la
généalogie. Vous avez bien fait, vous avez bien fait, vous avez bien fait.
Donc, voilà, maintenant c'est fait. Et je voulais vraiment dire que Europe 1, je vous écoute depuis à 35 000 pieds, j'écoutais Europe 1.
Et alors, à 35 000 pieds, ça m'intrigue 35. Ça aussi. 35 000 pieds.
35 000 pieds, ça doit faire...
On capte très bien là, dans un avion.
Oui, les radios, ça passe.
Ah oui.
Oui, moi j'écoutais parfaitement Europe 1.
Ah oui, mais je ne savais pas, vous voyez.
Je ne savais pas.
Donc du coup, vous écoutiez Europe 1 en décalage. Bah, c'était une manière de rester bien branché au pays, quoi.
Oui, ça m'aidait surtout à passer mes nuits, parce que je vous assure que quand vous êtes dans une cabine toute noire,
oui.
Que tout le monde dort, vous avez... qu'une envie, c'est de dormir à votre tour.
Oui, bien sûr. Bah, j'ai fait des longs voyages aussi. À
l'époque, on avait le droit de fumer dans les avions.
Oui, oui.
Donc, c'était cigarette sur cigarette, café sur café, mélange avec coca. On faisait des mixtures terribles, tout ça pour tenir le coup.
Ça devait être
C'était une passion. Ça, l'aviation a toujours été une passion. Je suis pilote d'avion privé, évidemment.
Oui.
Parachutiste.
Oui.
J'ai fait beaucoup de choses. Tout ce qui était air, ça a été ma passion. Et tout ce qui était le plus beau dans la vie, c'est l'air. Les chutes libres, piloter, être dans des avions, ça a été ma grande, grande passion. Manque toujours.
Hein. Oui, je
J'ai
me doute.
78 ans, et si je pouvais reprendre mon métier, je repartirais tout de suite.
Vous êtes une femme des airs.
Oui. Oui, très, très active. Je l'étais, parce que beaucoup moins maintenant. Mais comme je disais à votre collaboratrice, à 72 ans, j'étais une mamie qui faisait de la moto.
Ah oui.
Jusqu'au jour où j'ai eu un grave accident de moto, où j'ai perdu ma voix, j'ai fait une heure de coma. Et bon, ben je me suis calmée maintenant.
Ah oui, vous avez fait de la moto, donc vous étiez quand même une casse-cou un peu.
Oui, j'étais partante pour tout. À l'époque, je crois, je cherche ce nom de journaliste qui est très connu. À l'époque, il était en poste à Calais.
Oui.
Et il devait couvrir, j'aurais été la première femme à faire Calais-Douvres en ski nautique. C'était en 64. Et puis, eh ben voilà, tout le monde était à pied d'œuvre. Et puis, un temps de chien, et on est tous rentrés chez soi. Mais j'étais partante, moi, très casse-cou.
Génial.
Je me disais toujours, va où tu veux, meurs où tu dois. Donc, quand ce sera mon heure, ça m'arrivera.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est la liberté. Bah, tenez, j'ai une proposition de Aurore au 739-21 qui me dit qu'elle est
généalogiste.
Généalogiste, voilà, exactement. Et donc, Aurore, je vous invite à appeler Florian au 39-21 pour que je puisse vous rappeler et que vous puissiez m'aider. J'ai vraiment, je vous le dis, hein, Gisèle, et je le dis à Aurore aussi qui nous écoute, j'ai vraiment, alors c'est peut-être parce que je vieillis aussi, j'ai vraiment envie de savoir tout ça, d'où je viens. Voilà, ma famille, il y a 2 siècles, 3 siècles, enfin le plus loin possible finalement.
Je vous assure, c'est formidable.
Ah oui, ça doit être formidable.
Et quand vous y aurez goûté, vous n'allez plus vous arrêter.
Ah oui.
Parce qu'à chaque fois que vous découvrez un acte de naissance, donc fatalement, il vous arrive deux noms, celui du père et de la mère. Et vous voulez savoir qui il y avait au-dessus.
Ben oui, oui, oui.
Et vous grimpez, et vous partez après, parce que à l'époque, mais les familles, ils avaient 13 enfants.
Oui, oui, oui.
C'était courant. Mais bon, ils mouraient parce qu'il n'y avait pas la médecine qu'on a maintenant. Donc les enfants mouraient très jeunes. Mais les familles de 13 enfants, moi, dans ma famille... justement celle du Vietnam. Alors je disais, quand je demande des fois les actes de naissance aux mairies, je leur dis, ah mais il n'y avait pas la télévision à l'époque.
Mais lorsque vous dites qu'on n'a plus envie que ça s'arrête, je veux bien vous croire, et est-ce qu'on arrive à avoir bon, on sait donc où ils habitaient, mais est-ce qu'on arrive à avoir des informations autour de ce qu'ils faisaient dans le temps, quel était leur métier ?
Oui, oui, vous avez la profession.
D'accord.
Vous avez la profession et je vous dis, comme c'est une vraie toile d'araignée, quelqu'un de votre généalogie peut être aussi d'une autre généalogie et l'autre... vous apporte des détails.
D'accord, d'accord.
Moi, c'est ainsi que j'ai pu apprendre à quelqu'un d'autre, ce cousin qui était grand résistant à la dernière guerre, dont le drapeau tricolore, le drapeau national, porte le nom, porte son nom, et ce drapeau national, le blanc-rouge, et dans l'Amérique, d'Oule, dans le Morvan. C'est le drapeau de la compagnie André, parce que mon cousin s'appelait Georges André. Eh bien, j'ai découvert toute sa biographie, parce que quand il venait voir mon père, mais il parlait de rien. J'ai découvert ça sur Internet.
Et vous dites, Gisèle, que vous m'avez écrit que vous tapez votre nom et votre date de naissance, et vous avez tout qui défile. C'est très simple.
Oui.
Vraiment ?
Oui. Oui, parce que c'est une vraie toile d'araignée.
Oui. Incroyable.
Je vais vous dire, dernièrement, cette société généalogiste m'a contactée parce que je suis la cinquième génération
oui.
Pour une personne décédée en 2017. Donc, ils m'ont retrouvée, je ne sais même pas comment, parce qu'avec ce que j'ai fait dans la vie, tous les déménagements, l'Afrique, l'Asie, je ne sais pas comment ils m'ont retrouvée. Bon, ils m'ont dit la sécurité, le numéro de sécurité sociale.
Oui.
Eux, ils peuvent tout demander. C'est comme les impôts. Hein. Ils peuvent tout savoir.
Ah oui. Et donc, ils vous ont retrouvé pourquoi ? Pour un héritage, c'est ça ? Ou
Oui, à la cinquième génération.
Incroyable. Incroyable.
Donc, comme cette personne décédée, je ne la trouvais pas dans ma généalogie, dans mes 3000 personnes, la société m'ayant donné son nom, sa date... De naissance, sa date de décès et où elle était née et décédée, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit à la mairie, j'ai donné la raison, c'était pour pour la succession de Madame Intel, je voulais avoir son acte de naissance. Eh bien, je l'ai tout de suite retrouvé. Et finalement, c'est une cousine de ma mère.
Génial.
Et je l'ai retrouvée et j'ai pu la rattacher.
Oui.
Et du coup, son père, ben, je savais, puisque c'est une cousine du côté de ma mère, mais sur l'acte de naissance, j'avais le nom de sa mère et hop, je suis partie à augmenter ma généalogie par sa mère. J'ai remonté le courant du côté de sa mère.
C'est
extra. Ça, quand vous mettrez le doigt dedans, vous allez plus.
Ah oui, non, mais il me tarde parce que je. Bah, de toute façon, c'est intéressant de.
Alors, il n'y a qu'une chose, c'est que la loi ne permet pas aux mairies de donner les actes de naissance qui ont moins de 100 ans.
Moins de... D'accord, ok. Parce qu'il y a des chances, oui, d'accord.
Voilà.
Il y a des chances d'être encore avec des gens vivants.
Voilà.
D'accord.
Donc, ça, c'est une loi, mais tout ce qui est au-delà de 100 ans, vous trouvez tout sur Internet. Parce que maintenant, tous les actes sont numérisés.
D'accord, mais... donc ça veut dire que si je donne le... la date de naissance de ma maman, celle de mon papa...
Il faut que ça soit plus que 100 ans. Attention.
Alors là, non. En fait, pas... Non. En fait,
voilà.
Non.
Des grands-parents...
Oui, des grands-parents, oui. Les grands-parents,
voilà.
Oui.
Voilà. Si vous savez où ils sont nés, dans quel département, sur Internet, vous allez dans le département, acte numérisé du département... Vous tapez le nom et la date de naissance et vous allez avoir l'acte de naissance. Et
d'accord.
À partir de là, eh ben vous avez le père et la mère et vous allez remonter. Et vous remontez dans le temps.
D'accord, d'accord. Ouais, c'est super.
Mais il y a un butoir, c'est que moins de 100 ans, ben voilà, là, on est coincé. Là, j'ai eu l'acte de naissance de cette personne décédée en 2017 parce que j'ai donné la raison que j'ai été contactée comme héritière de Madame Intel décédée en 2017.
D'accord.
Donc là, ils m'ont donné l'acte de naissance. Mais si j'avais dit que c'était pour la généalogie, là, ils ne me l'auraient pas donné.
D'accord. Dites donc, je vois aussi que vous avez fait 1500 sauts. Donc, c'est Florian qui me dit ça. Vous avez fait 1500 sauts
en parachute. Parce qu'à l'origine, je ne sais pas si vous ne devez pas connaître ce terme-là, je suis une IPSA. Alors, une IPSA, c'est infirmière, pilote, parachutiste, secouriste de l'air.
D'accord.
En fait, j'y suis plus, hein, je suis largement à la retraite. Mais les IPSA, ce sont les infirmières de la Croix-Rouge qui sont dans les avions militaires. Donc
d'accord.
Certaines sont pilotes et parachutistes. Moi, j'étais les deux. Et j'ai commencé, j'ai été dans l'armée de terre. Et j'étais surtout sur hélicoptère, en tant qu'IPSA. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est aérien a été ma passion. De convoyeuse, après je suis partie dans le civil, sur les avions, compagnies aériennes civiles.
D'accord. Et votre mari sautait en parachute aussi. Je lis qu'il était l'un des seuls, le seul à sauter au-dessus du Kilimandjaro. C'était...
Oui, c'était en 64. Et l'article est dans un numéro de Paris Match de 64 parce qu'il a été sponsorisé par Air France. Donc, il est sur le sommet du Kilimandjaro avec le drapeau Air France.
Vous savez quoi, j'ai très peur, moi, de... Bon, alors, j'ai eu très peur en avion parce que j'ai eu un accident... Pas un accident d'avion, mais bon, il y a eu vraiment une grosse complication dans une caravelle qui revenait de Corse et j'avais 11 ans. D'ailleurs, ma mère, à l'époque, m'a dit « Fais ta prière, on va mourir ». Donc, quand vous avez 11 ans, voyez. Mais il y a eu un vrai souci. Hein. Mon petit frère avait à peine un an, il avait une petite sucette dans la bouche et la sucette, elle n'a pas bougé. On était les hôtesses de l'air pleuraient. Enfin, ça, il y a eu un vrai souci. Et j'ai mis très longtemps avant de remonter dans un avion. Tout ce qui est parachutisme, tout ça, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée, moi.
Alors, je vais vous dire, ma fille, qui m'entend toujours dire « Ah, c'est le pied, les chutes libres, c'est formidable », elle a voulu voir, quand elle a fait son saut d'initiation, accroché avec un moniteur, évidemment,
oui.
Arrivé au sol, elle me dit « Maman, il faut être complètement barjot pour sauter. »
Tout seul, en plus, je suppose.
Oui. Mais son père, qui a sauté sur le Kilimandjaro, lui, il a à peu près 5000 sauts.
Oui, c'était un professionnel.
Ça, c'était...
Enfin, un professionnel, je m'entends, mais c'était vraiment...
Enfin, oui. Il était parachutiste d'essai.
Oui.
Il était parachutiste d'essai. Et tout ça, il a sauté sur le Kilimandjaro, comme je disais à votre collaboratrice, pour faire mieux que Gilles Delamarre, qui, lui, avait sauté sur le Mont Blanc.
D'accord.
Ils étaient tous les deux à chaque fois en compétition.
D'accord.
Et j'ai fait plusieurs sauts, moi, avec Gilles Delamarre et Colette Duval dans les meetings aériens nationaux. Et c'était un coup formidable. Mais Gilles Delamarre et mon ex-mari, à chaque fois, il fallait qu'ils se surpassent.
Et, oui,
et
oui.
J'ai dit, bon, il y en a un qui va bien s'arrêter un jour.
En quête de performance.
Bon. Voilà. Malheureusement, ça a été Gilles Delamarre.
Oui, parce qu'il s'est tué, Gilles Delamarre, non?
Ben, il était aussi cascadeur.
Oui.
C'est lui qui était le cascadeur de Jean-Paul Belmondo.
D'accord.
Et après, il a formé Rémi Julien.
Oui, qui est décédé il y a quelques jours. Là.
Voilà. Ouais. Mais c'était d'abord Gilles Delamarre qui était le cascadeur de Jean-Paul Belmondo.
D'accord.
Et puis bien pour d'autres artistes dans d'autres films. Hein.
Ah, je ne savais pas, dites donc, je ne savais pas.
Mais c'était un casse-cou, Gilles Delamarre. Ils avaient peur de rien, ben, comme le père de ma fille, hein, pour aller sauter sur le Kilimandjaro.
Ben oui, parce que...
Il fallait être un peu givré, quand
même. Oui, il fallait être un peu givré, parce que déjà, à l'arrivée, je pense qu'il était givré, déjà, avec les températures, et surtout
ben,
qu'il n'y a,
oui.
a pas d'oxygène, enfin, c'est une vraie performance, c'est une vraie performance.
Complètement, et puis ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver là-haut. Hein. Et après, ben, il fallait redescendre, donc avec toute une équipe de Sherpas, toute son équipe, il était parti avec un médecin parachutiste, un pilote parachutiste, ils étaient toute une équipe, ils étaient quatre ou cinq. Et là, de nos jours, il reste plus que le pilote qui a encore en vie. Mon ex-mari, je ne sais même pas s'il est en... Si, je crois qu'il est encore en vie.
Mais comment ça, vous n'avez plus de nouvelles de lui du tout?
Non, du tout.
Vous êtes fâché?
Pas du tout.
Vous êtes fâché?
Ça, c'est sans être fâché, mais divorce... Et puis moi, je suis repartie dans mes avions,
oui.
Je me suis remariée... Mmh. J'ai parcouru le monde,
la vie vous a éloigné.
Oui.
Et dites-moi, je me posais une question, Gisèle, parce que on va être obligé d'interrompre notre discussion dans une minute. Mais vous, je pourrais vous rappeler, vous dormez tard, vous, le soir ou
Moi, je suis restée sur mes vols de nuit.
D'accord, d'accord.
C'est-à-dire, les hôtesses, l'équipage, en général, mangent toujours debout dans le galet.
Oui.
Le galet, c'est le bloc cuisine, hein, c'est le galet. Donc, les équipages mangent toujours debout. Donc, même chez moi, à 78 ans, je continue de manger debout dans ma cuisine.
D'accord.
Des fois, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas un peu barjot?
Ouais.
Ben non, c'est comme ça.
D'accord.
Et puis, je ne suis jamais couchée avant 3 heures du matin. Mais
d'accord,
alors,
vous êtes un oiseau de nuit, comme moi.
Ah,
Je ne suis jamais couché avant 3h, 4h du matin. J'adore la nuit. J'adore la nuit.
Ah ben oui, mais quand on m'appelle à 9h du matin, là, je peux vous dire, je suis pas fraîche. Hein.
Oui, je veux bien vous croire, ma chère Gisèle. Bah, écoutez, je me permettrai, j'ai demandé à Florian de noter votre numéro de téléphone et je me permettrai de vous rappeler pour qu'on puisse encore discuter ensemble, parce que c'était bien agréable.
Avec grand plaisir.
Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne nuit et mille merci pour votre appel et nous ne serons pas sans nous reparler, ma chère. D'accord ?
D'accord.
Je vous embrasse,
Gisèle.
Au revoir.
Moi aussi. Au revoir, Olivier.
Au revoir.